Avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La Pennsylvanie en faiseur de roi, ou plutôt de président aux États-Unis. Les 20 grands électeurs de cet État pourraient faire basculer l'élection en faveur du démocrate Joe Biden. Nous irons sur place dans ce journal.
Point complet aussi sur les résultats toujours partiels qui donnent grise mine à Donald Trump.
Bien raide sur la forme et dans le fond à la Maison-Blanche hier soir pour dénoncer le vol de l'élection par les démocrates. Un président devrait-il dire cela ? Non, selon de nombreux médias américains qui ont coupé la parole à Donald Trump ou quand les fake news se retourne contre lui.
Et puis à la une en France, la crise sanitaire et ses conséquences, Catherine.
Au lycée, avec des cours en alternance et un bac modifié, le Covid et ses conséquences sociétales aussi sur les SDF, moins de places en hébergement d'urgence.
Et puis dans une dizaine de minutes, la radiographie du coronavirus, que sait-on du Covid long? Vous savez, ces symptômes persistants, je poserai la question à un infectiologue, Pierre Tadevin.
Sa version à lui du « en même temps » présidentiel, c'est de crier à la fraude et en même temps à la victoire. Donald Trump a tenu une conférence de presse hier soir à la Maison-Blanche. Visage bien sombre, les yeux rivés sur son pupitre pour des propos assez surréalistes.
J'aimerais fournir au peuple américain des informations actualisées sur nos efforts pour protéger l'intégrité de cette très importante élection 2020. Si on compte les votes légaux, je gagne facilement. Si on compte les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l'élection. Si on compte les bulletins arrivés tard, et on les regarde de près, beaucoup sont arrivés tard. J'ai déjà gagné nettement de nombreux États, des victoires massives en Floride, Iowa, Indiana, Ohio, pour en citer quelques-uns. Il n'y a pas eu la vague bleue qu'ils prévoyaient. À la place, il y a eu une grande vague rouge.
Donald Trump, dont les propos en direct hier à la Maison-Blanche ont été interrompus par certaines chaînes de télévision, comme ABC News, qualifié encore sur Twitter de potentiellement trompeur sur l'élection. Le président des États-Unis, comparé encore par CNN à une grosse tortue sur le dos qui se débat en plein soleil. Reste à savoir comment le camp républicain va réagir face à Donald Trump, qui continue donc dans la surenchère verbale contre le processus démocratique. Ses supporters ont manifesté dans le Michigan, notamment pour dénoncer le prétendu vol de l'élection par les démocrates. Michelle, 39 ans, a même fait 2 heures de voiture depuis chez elle pour faire entendre sa colère dans les rues de Détroit.
Nous, on n'est pas violents comme notre camp. On ne va pas créer une émeute en centre-ville, mais on va manifester pacifiquement et dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on ne peut pas voler une élection à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas vous pointer comme ça et ramener de faux bulletins de vote. Tout ça parce que vous perdez. C'est illégal, c'est mal. C'est incroyable ce qui se passe dans mon pays. J'ai honte.
Michel, trumpiste convaincu au micro de Mathilde Dehimi à Détroit, dans le nord-est des États-Unis. On l'entend, la tension est palpable. Car les résultats sont toujours serrés dans cette présidentielle américaine. Le démocrate Joe Biden, toujours en tête, comme hier, il ne lui manque plus que 6 à 17 grands électeurs, selon les médias, pour atteindre les 270 voix nécessaires pour lui ouvrir les portes de la Maison-Blanche. Bonjour Jean-Marc Four.
Bonjour à tous.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Culture à Washington, où vous suivez pour nous de près le décompte des voix. Alors, où en est-on ce matin ?
Joe Biden se rapproche du but. Pour le candidat démocrate, le chemin de la Maison-Blanche passe par la Géorgie et plus encore, vous l'avez dit, par la Pennsylvanie. Dans les deux états de l'ouest du pays qui sont encore dans la balance, le Nevada et l'Arizona, il n'y aura sans doute pas de nouveaux résultats avant la mi-journée, donc la fin de la journée en fait en France. En revanche, les résultats continuent donc de tomber bureau de vote après bureau de vote en Géorgie et en Pennsylvanie. Dans ces deux états, Donald Trump a toujours fait la course en tête jusqu'à présent, mais le dépouillement progressif des votes par anticipation, en particulier dans les grands centres urbains, Atlanta, Philadelphie, permet à Joe Biden de rattraper son retard. Ce sont des votes qui lui sont très favorables. C'est précisément pour ça que Donald Trump les qualifie d'illégaux, entre guillemets, une formule qui est totalement déplacée. En Géorgie, Joe Biden ne compte plus que 1700 voix de retard sur Donald Trump et pourrait le doubler sur le fil. Mais ça s'annonce tellement serré qu'il sera difficile d'en tirer une conclusion définitive, d'autant que la Géorgie n'attribue que 16 grands électeurs, insuffisants pour permettre aux candidats démocrates d'atteindre avec certitude la barre magique des 270. C'est pour cette raison que ce matin, les regards se tournent essentiellement vers la Pennsylvanie, 20 grands électeurs. Pour le coup, si Biden l'emporte, il est le nouveau président. À cet instant, il n'a plus que 22 000 voix de retard en Pennsylvanie. Les courbes semblent devoir se croiser de façon inéluctable dans les heures qui viennent. Et à l'instant où l'avance de Biden deviendra irréversible en Pennsylvanie, il aura gagné. C'est le scénario le plus probable. N'en déplaise à Donald Trump.
Jean-Marc Four en direct de Washington pour suivre cette présidentielle qui ressemble décidément à un jour sans fin. Et nous allons justement en Pennsylvanie, là où se jouait le film avec Bill Murray, direction non pas Punxsutawney mais Philadelphie. Bonjour Maxime Tellier.
Bonjour Catherine, bonjour à tous.
La présidentielle se joue donc peut-être en ce moment en Pennsylvanie, nous ne cessons de le répéter, au Conventional Center de Philadelphie, où l'on procède encore au décompte des voix. Les manifestants dans la rue veulent aussi se faire entendre, Maxime.
Oui, c'est une ambiance très particulière. Sur place, on est dans le centre de Philadelphie, il y a beaucoup de forces de l'ordre, des hélicoptères qui tournent en boucle au-dessus de nous, et deux groupes qui se font face, les militants trumpistes avec leurs drapeaux américains, leurs panneaux Trump, Pence d'un côté, puis de l'autre, les militants démocrates pro-Biden, enfin surtout anti-Trump, il faut le dire, ils ont passé toute la journée là, une partie de la nuit aussi, à danser, c'est pour ça qu'on entendait de la musique, et il y a notamment Stéphanie qui est venue.
Nos bulletins anticipés sont en train d'être comptés. Nous avons posté nos votes anticipés ces dernières semaines et ils sont toujours en train d'être dépouillés. Les républicains veulent arrêter le comptage dans certains États et le continuer dans d'autres. On ne sait pas bien ce qu'ils veulent si c'est rester au pouvoir. On attend, on doit attendre jusqu'à ce que tous les votes soient comptés.
Voilà, et les votes continuent donc d'être dépouillés. L'écart se réduit, Jean-Marc Four vient de vous le dire, 22 000 voix d'avance pour Trump. Désormais, la plupart des bulletins qui restent sont pro-Biden, on le sait car ils viennent de Philadelphie. Enfin, sauf si la team Trump arrive à ses fins, le président dénonce des fraudes sans rien prouver. Il a dépêché des avocats sur place. Et j'ai interviewé l'une d'entre elles, elle s'appelle Elizabeth Kaiser.
Je ne peux pas affirmer qu'il y a eu des fraudes. Je n'ai pas la preuve. Mais j'ai vu beaucoup de négligence. Il n'y a pas un environnement qui permet le respect des règles et les lignes de conduite qui sont si importantes pour ce pays.
Voilà, les républicains dénoncent une situation inédite qui pose problème. Selon eux, beaucoup de votes par anticipation cette année, 8 fois plus qu'il y a 4 ans. À cause du Covid, les gens votaient ainsi. Les résultats devraient être proclamés aujourd'hui. C'est la secrétaire d'État de Pennsylvanie qui l'a dit.
Maxime Tellier en direct de Pennsylvanie où Joe Biden espère donc mettre les 20 grands électeurs de l'État dans son escarcelle. En attendant de connaître le nom du vainqueur, sachez que Donald Trump a gagné en popularité auprès des électeurs ruraux, latinos et afro-américains. Et c'est un article à retrouver en une sur franceculture.fr.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. La situation est très sérieuse et la deuxième vague violente. Voilà comment le ministre de la Santé a résumé la situation épidémique une semaine après le début du reconfinement.
Plus de 58 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures. Olivier Véran en appelle donc à la responsabilité de chacun.
Si nous ne respectons pas suffisamment le confinement, si le virus continue à circuler sur le rythme qui est le sien actuellement, alors nous connaîtrons un risque fort de saturation au niveau national dès la mi-novembre, avec plus de 7000 patients atteints de Covid en réanimation, c'est-à-dire plus de 70% de la capacité maximale de nos réas, juste avec des patients atteints de Covid. Cette deuxième vague serait donc plus haute que la première, elle serait plus longue que la première, avec un nombre croissant et une probable stabilisation à un niveau élevé de patients en réanimation, et ce, au moins jusqu'à la mi-décembre.
La crise sanitaire dont parlait le ministre de la Santé Olivier Véran a également des répercussions dans l'éducation nationale. Le ministre Jean-Michel Blanquer a annoncé hier soir que les lycées pourraient mettre en place un enseignement à distance partielle jusqu'aux vacances de Noël, à condition de garantir au moins 50% de présence en classe pour chaque élève, à chaque établissement de s'organiser et pour éviter de trop grandes inégalités selon le temps passé en classe dans les prochains mois. Jean-Michel Blanquer a également modifié des épreuves du bac. Les fameuses E3C, ces épreuves communes qui avaient fait polémique l'an dernier, disparaissent purement et simplement pour les élèves de première et de terminale. Mais c'est encore insuffisant pour le SNES-FSU, premier syndicat du secondaire, qui maintient son appel à la grève sanitaire pour mardi prochain. Alors que des millions de Français sont reconfinés chez eux, d'autres sont une nouvelle fois confinés dehors. Les sans-abri subissent de plein fouet la crise sanitaire, comme illustre ce reportage de Laura Dulieu à la halte de nuit des Emmaüs Solidarité dans le premier arrondissement de Paris.
Bonsoir, monsieur Sarkozy. Bonsoir. À l'ouverture des portes à 21h tapante, c'est gel hydroalcoolique et prise de température obligatoire pour les 20 pensionnaires. Ici, ce sont des personnes seules, sans autre solution d'hébergement, qui sont accueillies chaque nuit. Café chaud à la main, Mario a du mal à s'y retrouver parmi toutes les annonces.
On ne sait pas sur quel pied danser. Hein. C'est pas évident. Nous, on n'est pas spécialistes, mais les spécialistes eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord. Ça m'a cassé les pieds.
Moen survit grâce à des petits boulots dans la mécanique. Il a subi la crise sanitaire de plein fouet.
Ça fait changer ma vie. On ne peut pas faire le télétravail. Je ne peux pas démonter et remonter un pneu sur une voiture ou bien faire une vidange pour une voiture par télétravail. Déjà, être confiné en tant qu'SDF, là où tu marches, il y a la police qui te demande des papiers. T'as pas le droit d'aller là, t'as pas le droit d'aller là. Vraiment, c'est comme si on est dans une prison.
D'autant que les jauges ont dû être réduites dans les lieux d'accueil. La halte de nuit a réduit sa capacité de 30 à 20 places. Et pour l'accueil de jour, qui accueillait certains matins jusqu'à 200 personnes, c'est désormais 50 personnes maximum. Et les dernières annonces ne vont rien arranger, selon Bruno Morel, directeur d'Emmaüs Solidarité.
On pensait s'en sortir, là ça a repris avec l'histoire du couvre-feu, un nouveau confinement. Alors j'ai bien entendu le message qu'il fallait continuer les actions au service des personnes vulnérables, et c'est tant mieux. Simplement, quand vous êtes à la rue et que vous n'avez pas de toit, vous vous confinez où ? Et il va falloir qu'on ouvre des places à la hauteur des besoins.
Bruno Morel salue cependant l'ouverture de places supplémentaires par l'État. Depuis le printemps, ce sont environ 30 000 places d'hébergement qui ont été ouvertes.
Face à la crise sanitaire, le plan de relance en France à 100 milliards d'euros dépend notamment de l'argent débloqué par l'Union européenne. Mais certains pays, comme la Pologne et la Hongrie, critiqués pour leur non-respect de l'état de droit, bloquaient ce processus. Le Parlement européen vient d'obtenir une victoire historique hier sur un mécanisme qui devrait désormais conditionner les aides justement au respect de l'état de droit. Le temps de ce vendredi 6 novembre partagé entre grisaille et éclaircie. Les températures seront comprises au meilleur de la journée, entre 9 et 15 degrés sur la moitié nord de l'Hexagone, comptez de 14 à 22 au sud, Guillaume Hernel.
Merci beaucoup, Catherine Dutu.